Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Une mort très douce et la vieillesse, de Simone de Beauvoir. Une mort très douce est un court récit autobiographique de Simone de Beauvoir, publié en 1964, qui décrit comment l'auteur a vécu les derniers mois de la vie de sa mère auprès d'elle. D'après Jean-Paul Sartre, ce livre est le meilleur qu'elle ait écrit. Sa mère, Françoise de Beauvoir, tombe dans sa salle de bain et se fracture le col du fémur. Elle est transportée à l'hôpital. Pendant sa convalescence, elle montre des signes de fatigue et de dégoût pour la nourriture. Rapidement, les médecins détectent un cancer de l'intestin grêle qui se révèle foudroyant. Durant 3 mois, Simone de Beauvoir et sa sœur Hélène vont se relayer au chevet de leur mère et assister à ses derniers moments. La mort est évoquée du point de vue de la narratrice athée et de sa mère très croyante. Dans ce récit, Simone de Beauvoir expose son angoisse, sa souffrance et sa solitude face à la mort de la figure maternelle. Beauvoir semble projeter à différents moments ses propres craintes sur sa mère, qu'elle décrit comme farouchement accrochée à la terre et qui avait de la mort une horreur animale. La vieillesse de Simone de Beauvoir est un ouvrage profondément philosophique. Il est publié en 1970, il explore le concept de vieillesse à travers une lentille existentielle. Beauvoir examine la manière dont la société perçoit et traite les personnes âgées, mettant en lumière les stigmates et les préjugés qui leur sont souvent associés. Elle souligne également les défis personnels auxquels sont confrontés les individus en vieillissant, tels que la perte d'autonomie, la solitude et la confrontation à sa propre mortalité. Simone de Beauvoir critique le culte de la jeunesse et l'obsession de la société pour la productivité, plaidant en faveur d'une reconnaissance de la valeur intrinsèque des personnes âgées. Elle défend une vision de la vieillesse comme une étape de la vie à part entière, riche en possibilités d'épanouissement et de croissance personnelle. Elle encourage les personnes âgées à revendiquer leur place dans la société et à continuer à s'engager activement dans le monde qui les entoure. Le livre « La vieillesse » offre une réflexion profonde et stimulante sur la condition humaine à mesure que nous avançons en âge, invitant à repenser notre conception de la vieillesse et à valoriser l'expérience et la sagesse des personnes âgées. Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 dans le 6e arrondissement de Paris. Elle est la fille de Georges Bertrand de Beauvoir, avocat, comédien amateur, et de Françoise Brasseur, issue de la bourgeoisie verdunoise. Dès le plus jeune âge, Simone de Beauvoir se distingue par ses capacités intellectuelles et se partage chaque année la première place avec Élisabeth Lacoing, dite Élisabeth Mabille ou Zaza dans sa autobiographie, fille de l'ingénieur Maurice Lacoing. Zaza devient rapidement sa meilleure amie. Dans sa jeunesse, Simone de Beauvoir passe ses vacances d'été en Corrèze, à Saint-Ibar, dans le parc de Mérignac, créé vers 1880 par son grand-père, Ernest Bertrand de Beauvoir. La propriété avait été acquise par son arrière-grand-père au début du 19e siècle. Élevée par une mère très pieuse, puis devenue elle-même croyante exaltée et mystique pendant quelques années, Simone de Beauvoir perd progressivement la foi à 14 ans. Elle commence alors à s'émanciper intellectuellement de sa famille, sans pouvoir immédiatement l'assumer au grand jour. À 15 ans, son choix est déjà fait. Elle sera un écrivain célèbre. Après le baccalauréat en 1925, elle entame des études supérieures à l'Institut catholique de Paris pour les mathématiques et à l'Institut Sainte-Marie de Neuilly pour les lettres. À la faculté des lettres de l'Université de Paris, elle rencontre d'autres jeunes intellectuels, dont Jean-Paul Sartre, qu'elle regarde comme un génie. De cette époque, se noue entre eux une relation qui deviendra mythique, longtemps supposée libre et égalitaire. La mort de son amie d'enfance, Zaza, quelques mois plus tard, la plonge dans une grande affliction. À la suite de l'obtention de son agrégation en 1929, Simone de Beauvoir devient professeure de philosophie. Entre 1929 et 1931, elle est professeure agrégée et donne des cours au lycée Victor Duruy de Paris. La perspective de quitter Sartre, lui-même nommé au Havre en mars 1931, la jette dans l'angoisse et ce dernier lui propose de l'épouser afin d'obtenir un poste dans le même lycée. Bien que viscéralement attachée à Sartre, Simone de Beauvoir rejette la proposition. En 1936, elle obtient enfin un poste à Paris. Elle enseigne au lycée Molière de 1936 à 1939. Elle en est suspendue à la suite de sa liaison avec une de ses élèves, âgée de 16 ans. Simone de Beauvoir est à nouveau suspendue le 17 juin 1943 à la suite d'une plainte pour incitation de mineurs à la débauche. La plainte aboutit à un non-lieu, mais Simone de Beauvoir est définitivement révoquée de l'éducation nationale. En 1943, elle travaille pour Radio Vichy, Radio Paris, où elle organise des émissions consacrées à la musique à travers les époques. Toujours en 1943, elle s'installe avec Jean-Paul Sartre à l'hôtel La Louisiane, à Saint-Germain-des-Prés. Avec Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Michel Iris, Maurice Merleau-Ponty, Boris Vian et quelques intellectuels de gauche, elle fonde la revue Les Temps modernes, qui a pour but de faire connaître l'existentialisme à travers la littérature contemporaine. Mais elle continue cependant son œuvre personnelle. Après plusieurs romans et essais où elle parle de son engagement pour le communisme, l'athéisme et l'existentialisme, elle obtient son indépendance financière et se consacre totalement à son métier d'écrivaine. Elle voyage dans de nombreux pays, États-Unis, Chine, Russie, Cuba, où elle fait la connaissance d'autres personnalités communistes tels que Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong, Richard White. Beauvoir a rencontré l'écrivain américain Nelson Algren à Chicago en 1947, alors qu'elle voyageait à travers les États-Unis pendant 4 mois. Elle y engage avec lui une relation passionnée qui dure plus de 15 ans et lui envoie plus de 300 lettres. Elle tient un journal détaillé du voyage qui est publié en France en 1948 sous le titre « L'Amérique au jour le jour ». En 1949, elle obtient la consécration avec le deuxième sexe. Sa liaison avec Claude Lanzmann débute en juillet 1952. Le 6 décembre 1954, le 51e prix Goncourt est décerné à Simone de Beauvoir pour Les Mandarins. Elle devient l'un des auteurs les plus lus dans le monde et ce roman met en lumière sa relation avec Nelson Algren, toujours à travers des personnages imaginaires et traite de l'après-guerre. À partir de 1958, elle entreprend son autobiographie « Mémoire d'une jeune fille rangée », racontant malgré sa condition de femme les distances peu à peu prises avec un milieu d'origine rempli de préjugés. En 1960, elle signe le manifeste des 121, déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. En 1964, elle publie « Une mort très douce » qui retrace la mort de sa mère. Le thème de l'acharnement thérapeutique et de l'euthanasie y sont évoqués. Durant cette période de deuil, elle est soutenue par une jeune fille dont elle a fait la connaissance à la même époque, Sylvie Lebon, une jeune étudiante en philosophie. La relation qui unit les deux femmes est obscure, relation mère-fille, amicale ou amoureuse. Simone de Beauvoir déclare, dans Tout compte fait, son 4e tome autobiographique, que cette relation est semblable à celle qui l'unissait à Zaza, 50 ans plus tôt. Sylvie Lebon devient sa fille adoptive et héritière de son œuvre littéraire et de l'ensemble de ses biens. L'influence de Beauvoir, associée à Gisèle Halimi, a été décisive pour obtenir la reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de la guerre d'Algérie et le droit à l'avortement. Elle rédige le manifeste des 343, publié en avril 1971 par le Nouvel Observateur. Avec Gisèle Halimi, elle a cofondanté le mouvement Choisir, dont le rôle a été déterminant pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Tout au long de sa vie, elle a étudié le monde dans lequel elle vivait, en visitant usines et institutions, à la rencontre d'ouvrières et de hauts dirigeants politiques. Après la mort de Jean-Paul Sartre, en 1980, elle publie La cérémonie des adieux, où elle décrit les 10 dernières années de son compagnon, avec des détails médicaux et intimes si crus qu'il choque bon nombre des disciples du philosophe. Elle dit également à mi-mot combien l'attitude de la fille adoptive de Sartre, Arlette Elkheim Sartre avait été détestable à son égard. Elle décède le 14 avril 1986 dans le 14e arrondissement. Elle est inhumée au cimetière de Montparnasse, à Paris, dans la 20e division, aux côtés de Jean-Paul Sartre. Elle est enterrée avec à son doigt l'anneau en argent au motif inca, offert par son amant de l'époque, Nelson Algren, au matin de leur première nuit d'amour. Il n'y a pas de mort naturelle. Rien de ce qui arrive à l'homme n'est jamais naturel, puisque sa présence se met le monde en question. Tous les hommes sont mortels, mais pour chaque homme, sa mort est un accident, et, même s'il la connaît et y consent, une violence indue. Je m'étais attaché à cette moribonde. Tandis que nous parlions dans la pénombre, j'apaisais un vieux regret. Je reprenais le dialogue brisé pendant mon adolescence, et que nos divergences et notre ressemblance ne nous avaient jamais permis de renouer. Et l'ancienne tendresse que j'avais crue tout à fait éteinte ressuscitait, depuis qu'il lui était possible de se glisser dans des mots et des gestes simples. Aujourd'hui, je n'ai pas vécu. Je perds des jours. Chaque journée gardait pour elle une valeur irremplaçable. Et elle allait mourir. Elle l'ignorait, mais moi je savais. En son nom, je ne me résignais pas. Elle avait tourné une page avec un étonnant courage après la mort de notre père. Elle en avait eu un violent chagrin, mais elle ne s'était pas enlisée dans son passé. Elle avait profité de sa liberté retrouvée pour se reconstruire une existence conforme à ses goûts. Pour moi, ma mère avait toujours existé, et je n'avais jamais sérieusement pensé que je la verrais disparaître un jour, bientôt. Sa fin se situait comme sa naissance dans un temps mythique. Quand je me disais « elle a l'âge de mourir », c'était des mots vides comme tant de mots. Pour la première fois, j'apercevais en elle un cadavre en sursis. Tous mes chagrins jusqu'à cette nuit, je les avais compris, même quand ils me submergeaient. Je me reconnaissais en eux. Cette fois, mon désespoir échappait à mon contrôle. Quelqu'un d'autre que moi pleurait en moi. Et moi, aussi un cancer me dévorait. Le remords. Sa beauté, son sourire ressuscité exprimaient un paisible accord avec elle-même et, sur ce lit d'agonie, une espèce de bonheur. Je tenais pas particulièrement à revoir maman avant sa mort, mais je ne supportais pas l'idée qu'elle ne me reverrait pas. Pourquoi accorder tant d'importance à un instant puisqu'il n'y aura pas de mémoire? Il n'y aura pas non plus de réparation. J'ai compris pour mon propre compte, jusque dans la moelle de mes os, que dans les derniers moments d'un moribond, on puisse enfermer l'absolu. Elle reposait et rêvait, à une distance infinie de sa chair pourrissante, les oreilles remplies du bruit de nos mensonges et tout entier ramassé dans un espoir passionné, guérir. Maman aimait la vie comme je l'aime, et elle éprouvait devant la mort la même révolte que moi. Qu'on l'imagine céleste ou terrestre, l'immortalité, quand on tient à la vie, ne console pas de la mort. Quand quelqu'un de cher disparaît, nous peignons de mille regrets poignants la faute de survivre. Sa mort nous découvre sa singularité unique. Il devient vaste comme le monde que son absence anéantit pour lui, que sa présence faisait exister tout entier. Il nous semble qu'il aurait dû tenir plus de place dans notre vie, à la limite, toute la place.
La vieillesse, Simone de Beauvoir. Introduction. Quand Bouddha était encore le prince Siddhartha, enfermé par son père dans un magnifique palais,
entre nous ont vu le vieux qui passe dans la rue, épouvantail tout gris que la cité a exclu. La rue, les gens et le monde vont bien trop vite pour lui. Dans ses yeux absents d'enfant ne passe que l'effroi du temps. Pour descendre et remonter 6 étages d'escalier, il faut l'éternité. Quelle faute a-t-il pu commettre, le vieux tout gris qui traîne ses vieux membres rassis? Combien d'entre nous ont fait quoi que ce soit de palpable, un geste, un mot, un sourire, pour le raccrocher à nous? La vieillesse nous fait frémir, on ne veut pas croire au pire, nos yeux ne retiennent d'elle une image irréelle. Mon vieux à moi, tous les mois, va à tout petit pas empocher sa pension. Il se ménage au retour un détour insolite chez le glacier du coin. Je serai vieux et tout seul, demain ou après-demain, je voudrais comme celui-là, au moins une fois par mois, avec mes sous si j'en ai, m'acheter une glace à 2 boules et rêver sur leur saveur. Un monde rempli d'enfants, mais peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé. En s'y prenant maintenant, nous-mêmes et sans attendre à refaire le présent. Donne à ceux qui sourient, et combien le droit de sourire. Rendez-vous dans 20-30 ans pour reparler du bon temps.
Nous avons écouté l'introduction de La vieillesse de Simone de Beauvoir, ainsi que la chanson de François Béranger, Le vieux. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.